Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Bonjour. Je suis ce matin au musée de l'Archerie du Valois pour une exposition qui s'appelle « À table, alimentation et les repas depuis la préhistoire ». Je suis avec Marie qui fait partie du musée de l'Archerie. Tu peux me dire en quoi consiste cette journée ?
Alors, c'est les Journées du patrimoine, c'est un événement européen maintenant qui a lieu tous les ans. Et donc sur un week-end, on met en avant le patrimoine autour d'une thématique. Cette année, la thématique nationale est l'art du partage. Et donc nous, on a décidé de se concentrer sur la nourriture à travers les âges, puisque c'est quand même un des plus grands moments de partage de la culture française. Voilà.
Alors pour la nourriture, d'abord, il y a la chasse.
Alors tout commence effectivement à la préhistoire, où pour se nourrir, tout dépendait surtout de la chasse. De ce qu'on pouvait bien atteindre comme animal. Et donc pour ça, on a pour animer donc le stand préhistoire, on a un stand d'initiation au tir à l'arc et au tir au propulseur. Donc voilà, les visiteurs peuvent s'initier au tir et voir si ils auraient pu ramener à manger du mammouth ou du cerf ce soir.
Donc après, il y a un stand là où on va voir un peu ce qui se faisait à l'époque romaine et au Moyen-Âge, c'est ça ?
Tout à fait. Alors après, on a un stand avec des tables, une reconstitution de tables gallo-romaines et une autre plutôt médiévale. Ensuite, on a un stand dédié aux épices à travers les âges. Un autre dédié aux arts de la table. Donc là, on est plutôt à partir du XVIIe siècle. Donc toutes les vaisselles différentes, etc. Et ensuite, on a toute une grande partie de dégustation autour de feu. Et où, donc là, c'est plus de la nourriture médiévale qui est mise en avant.
Bonjour.
Bonjour.
Alors sur votre stand, qu'est-ce qu'on fait ?
On met la table.
On met la table.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que devant vous, vous avez plein de couverts, plusieurs verres, plusieurs assiettes, plusieurs couteaux, plusieurs cuillères, plusieurs fourchettes. Et je vous demande de mettre la table correctement, comme une table à la française, avec tous les couverts dans le bon ordre et dans le bon sens.
Alors ça, cette mise en place de la table, ça date de quelle époque ?
Alors la mise en place évolue en fait au cours du temps, mais c'est vrai que là on est ça a commencé avec Versailles et Louis XIV qui commençaient à faire des repas qui étaient plutôt fastueux et c'était une manière de montrer sa richesse qui a donc évolué au cours du temps avec l'apparition du cristal plutôt que du verre et etc. Mais effectivement ça se fait toujours dans de grands restaurants, mais à partir du moment où la Révolution est arrivée et que les restaurants se sont ouverts un petit peu partout. Le service à la française, avec tous ces grands plats, ces grands couverts, devenait compliqué. Et donc, on est passé au service ou à l'anglaise ou à la russe, qui est un service à l'assiette, donc plat par plat, qui rendait les choses beaucoup plus simples. Mais toujours, dans certains grands restaurants, on garde ce service à la française avec cet étalement de tous les couverts, avec différentes fonctions pour chacun.
Au Moyen-Âge, on avait juste une cuillère et un couteau. À partir de quelle époque est apparue la fourchette ?
Alors la fourchette, c'est la dernière qui est apparue, puisque le couteau, ça date de la préhistoire, du couteau à la silex. La cuillère, c'est pareil, dès la préhistoire, les escargots servaient de cuillère ou les coquillages. Par contre, effectivement, la fourchette est apparue. Alors on sait que certaines fourchettes pour le service existent à la Rome antique, mais c'est surtout l'époque médiévale, mais c'était quand même assez peu usité, parce que les gens avaient peur de se faire mal avec le côté pointu de la fourchette. Donc ça a mis beaucoup de temps en fait à se mettre en fonction. Et puis ce qui a un peu décidé les gens, c'est qu'à une époque ils portaient les fraises, là, les grands cols, et que du coup manger avec les doigts ça salissait les cols, donc finalement la fourchette c'était bien pratique. Voilà.
Alors est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à mettre la table correctement dans ceux qui sont passés déjà ?
Le gros, la plupart du temps, effectivement, une bonne partie des éléments sont dans le bon sens, mais il y a toujours quelques petits détails qui manquent.
C'est un peu compliqué, on n'a plus l'habitude quand même.
On n'a plus l'habitude d'avoir des couverts avec 4 fourchettes, 4 couteaux, 4 verres. Ça se fait plus vraiment de nos jours, hormis dans certains grands restaurants. Mais c'est vrai qu'au quotidien, on n'a plus cette habitude-là.
Est-ce qu'il n'y a pas un retour un peu à la préhistoire? Parce que maintenant, moi, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui mangent avec les doigts. Les hamburgers, les sandwichs, les trucs comme ça, maintenant.
Ah oui, c'est vrai qu'effectivement, c'est un retour à la préhistoire. Mais bon, à la préhistoire, il y avait des couteaux quand même. Alors que maintenant, dans le hamburger, vous n'avez même plus de couteaux.
Bonjour.
Bonjour.
On est sur un stand où on découvre les épices, je pense.
Tout à fait. Donc, c'est les épices à travers les âges. On fait deviner aux gens de quelle épice il s'agit. Donc, souvent, ils sont quand même assez forts et ils devinent. Et après, du coup, on entame une discussion sur l'origine de ces épices, quand est-ce qu'ils étaient, quand est-ce qu'ils sont arrivés en Europe, etc. Voilà. Et on peut terminer par une petite dégustation de gelée de sauge.
Parce que toutes les épices qu'il y a là, elles ne sont pas arrivées à la même époque?
Non, alors il y en a qui étaient utilisées dès l'Antiquité, notamment le poivre par exemple. Et puis ensuite, avec le développement des routes commerciales, notamment vers l'Inde, vers l'Afrique, etc., les épices arrivent de proche en proche. Les marchands arabes introduisent beaucoup d'épices en Europe. Et ensuite, bah, les Européens eux-mêmes vont directement en Inde et en Asie, via les routes navigables, notamment après Vasco de Gama. Donc les Portugais, par exemple, ouvrent des comptoirs et vont se fournir directement sur place voilà, pour chercher les épices.
Donc les grands ports français, c'était quoi? Marseille, Bordeaux?
Marseille, beaucoup. Marseille, Bordeaux, oui, toute la côte atlantique, mais effectivement en Méditerranée beaucoup, hein. Marseille, Nice, enfin non, Marseille surtout était vraiment les points d'entrée en France des épices et aussi du café par exemple.
Alors les gens reconnaissent bien les épices ou pas?
Oui, non, là on est pour le moment, on est sur des gens très doués en reconnaissance d'épices. Oui, oui, non, après les épices ont quand même été assez popularisées ces dernières années et les gens connaissent de plus en plus les cuisines exotiques et où elles sont beaucoup plus utilisées qu'en France. Et donc du coup, oui, on a des plutôt bons connaisseurs. Après, c'est sous forme de poudre où il y a le plus de difficultés de reconnaissance.
Si on reconnaît d'abord la forme, pour beaucoup d'épices, là j'ai vu un clou de girofle, choses comme ça, même le poivre, on reconnaît déjà la forme avant de le sentir.
C'est ça. Alors, je pense qu'effectivement, il y aurait moins de réussite si on était vraiment sur des petits pots opaques où les gens ne pourraient céder que de l'odeur. Voilà, à l'aveugle, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais effectivement, là, le clou de girofle, l'anis étoilé, la noix de muscade, c'est des choses qu'on reconnaît visuellement déjà avant de les sentir. Et les...
Moi, j'ai commencé par le gingembre. Donc après, c'est fini, on ne sent plus rien.
Alors oui, effectivement, c'est un peu comme les dégustations de fromage. Quand on commence par le plus fort, après, les autres semblent tout de suite beaucoup moins identifiables. Mais voilà, il y a tout un panel effectivement, d'épices qui vont de la plus douce jusqu'au plus fort. Effectivement, le gingembre est dans cela.
Bonjour, alors on est sur le stand de quoi ici?
Alors, on est sur le stand de la table gallo-romaine et la table moyenâgeuse. On essaie de faire des comparaisons. Il y a des choses en commun. On connaît le miel, on connaît les épices. On les retrouve au Moyen-Âge. Ce n'est pas tout à fait les mêmes, puisque suite aux croisades, on est allé chercher d'autres épices dans les pays orientaux. Mais voilà, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. Et voilà, c'est ce qu'on a voulu faire découvrir aujourd'hui aux gens. Faire découvrir des boissons, des odeurs, des goûts, et puis une mise en scène de table qui est un peu différente.
Le stand gallo-romain, il y a surtout, je pense, huile d'olive et
on a du
miel.
Les gallo-romains étaient friands de fruits. Ils aimaient beaucoup les fruits, ils aimaient beaucoup les escargots. Ils consommaient beaucoup de céréales aussi, beaucoup de céréales. On va dire que c'était une cuisine assez raffinée. Hein. Ils arrivent en Gaule. Avec la cuisine gauloise qui était un peu plus rustre, on va dire, un peu plus dure, là, ils amènent des choses plus sucrées, plus... Voilà, l'huile d'olive, le miel, des choses... Et très friands, les gallo-romains, de garum. Garum qui est un jus de poisson fermenté. Ils apportent aussi les lentilles ici, quand même. Les lentilles et puis certaines habitudes, notamment l'habitude de manger, pour le chef de famille, de manger allongé. Les enfants, l'épouse va manger autour mais eux vont rester à table. Le chef de famille, ça c'est une vieille habitude de la République romaine où on recevait les invités, on les recevait, on mangeait allongé. En Gaule, les Gallo-Romains, eux, on est au 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Il n'y a plus que le chef de famille qui reste allongé et les autres mangent. À l'époque médiévale, on est tous autour d'une table, dans un château évidemment, on est tous autour d'une table et on vient nous servir à table. On ne mange plus allongé, c'est fini. Voilà.
Alors au Moyen-Âge, chez les nobles, donc on n'a pas de table. C'est toute la différence aussi, ce sont voilà, des tables qui sont montées sur des tréteaux avec des nappes par-dessus. Quoi.
Exactement, on a des tréteaux, c'est ce qu'on appelle dresser la table. On a des tréteaux, contrairement aux Gallo-Romains, eux, ils avaient des tables hein, fixes, qu'on a déjà, d'ailleurs, certaines ont été retrouvées. Là, on a des tréteaux, on dresse la table, on met des nappes, et puis on a une assiette pour deux, un tranchoir qui est personnel, évidemment, et on va piocher. Enfin, piocher, on va se servir dans les plats qui sont proposés en face de nous avec trois doigts. Et là, on va poser son morceau de viande sur le tranchoir. Et là, on va déguster le mets. Le tranchoir, quand il est imbibé de sauce, on le garde, on le donne aux chiens qui sont autour de la table. Ou alors, éventuellement, on va l'offrir aux paysans qui attendent devant le château. Voilà.
Le tranchoir, il faut expliquer aux gens, le tranchoir, c'est un gros morceau de pain. Quoi.
C'est un morceau de pain. C'est un morceau de pain, mais ça peut être aussi une planche. Ouais. Un morceau de bois qui est posé devant le convive, où on va déposer son morceau de viande. L'assiette, elle est commune à son voisin. On partage l'assiette, c'est ça, partager un repas. En fait, c'est, finalement, on a une assiette commune. Les verres, le verre est forcément très connu au Moyen-Âge. Il est souvent assez décoré. Et là, il n'est jamais posé sur la table. On appelle, on fait un signe et quelqu'un vient venir nous apporter le verre, notre verre, et on va être servi. Après, il faut boire les lèvres sur le bord du verre, boire une petite quantité sans faire de bruit, évidemment, et avec des règles qui sont voilà, très codifiées.
Alors là, je suis sur le stand de la cuisine, c'est ça ?
La cuisine du moine Constance.
Alors, le moine Constance, qui c'était ?
C'est un moine chartrain qui était chargé de garder les reliques de Saint-Arnoux et de sa femme, une partie, à Saint-Arnoux en Yvelines. Et j'ai eu la bonne idée de voler les reliques et de venir les présenter aux gens du Valois. Grâce à ça, j'ai gagné beaucoup d'argent. Sauf que le seigneur du lieu, du Valois, a entendu parler. Quand il a vu que j'avais un succès énorme avec les reliques, il m'a racheté les reliques. Et alors, ils n'ont pas été sympas dans le coin parce que bon, j'avais hormis le péché d'avoir volé exceptionnellement les reliques. C'est que j'aimais tellement les femmes que j'ai été condamné pour adultère et puis on m'a rejeté. Voilà, voilà les remerciements des gens de Crépy.
Alors aujourd'hui, on est sur un stand où vous allez faire un certain nombre de préparations culinaires.
Oui, oui, au Moyen-Âge, mais de cuisine monastère, c'est-à-dire que ce n'est pas fait par des grands chefs, ce n'est pas fait non plus par des petits paysans, ce n'est pas fait non plus par des seigneurs qui bon, avaient déjà les moyens. On fait de la cuisine selon nos réserves l'hiver, c'est-à-dire qu'on fait du cochon salé, on garde nos pommes, nos raisins, nos légumes d'hiver. Et on fait aussi un petit peu d'achat aux paysans autour, et puis on fait un petit peu d'importation, hein. Il n'y a aucun souci.
Et souvent, les moines avaient tous des potagers, de la vigne, des choses comme
oui,
ça, non ?
On a un peu, mais on ne peut pas tout faire dedans. Nous, on est plus vergers et légumes.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous proposez comme recette ?
Alors, une recette extrêmement compliquée, concombre, crème fraîche, ciboulette, crêpes salées, hein, bien entendu, du saumon que nous avons pêché dans la Loire. On mélange tout ça, on met ça en plat principal, en ce moment, bon, c'est l'abondance, mais quand il n'y a pas d'abondance, on ne mange pas grand-chose, puisqu'on ne mange qu'une fois par jour, sauf si on est malade. Et là, en ce moment, je ne suis pas très bien, donc j'ai le droit à un peu de viande, un peu de vin.
Depuis les jardins du musée de l'Archerie, c'était Hervé pour RVM 93.7.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.